L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'EM avec comme promis la suite aujourd'hui de notre entretien avec le géographe Yves Le Bailly qui est agrégé de géographie et ancien professeur à l'école normale à Vannes. Il a également enseigné au master professionnel d'aménagement maritime et littoral de l'université de Bretagne Sud de Lorient. Yves Le Bailly a signé ou co-signé 3 livres sur l'aménagement et l'organisation du territoire breton depuis 2015. Il y a eu Réunifier la Bretagne, région contre métropole avec Gaël Briand, Où va la Bretagne avec Jean-Claude Le Ruyet et le plus récent, Défi pour la Bretagne. Tous les trois sont édités par Scholvrez. Yves Le Bailly y pose un diagnostic sur le développement de notre région dans la première partie de l'entretien. Il est revenu sur les faiblesses de ce développement et aussi sur les conséquences de la métropolisation, notamment les conséquences sociales. Aujourd'hui, dans cette deuxième partie de l'entretien, il va nous livrer les solutions qu'il entrevoit pour un développement plus équilibré et plus juste de la Bretagne. Petite précision, cet enregistrement a eu lieu pendant les vacances d'automne.
La vraie question aujourd'hui, excusez-moi, vous allez croire que je suis un vieux maoïste, je ne suis pas. Mais il n'empêche qu'un des principes de la révolution culturelle, c'était les communes populaires. Je ne sais pas si vous avez connu ça.
Oui, non, moi je ne les ai pas connues, mais, j'ai su ce que c'était.
Vous savez ce que c'était, on en a gardé l'aspect négatif, hein, la mise au pas des populations, etc. Mais il y avait quand même un principe sous-jacent qui était sacrément intéressant. C'était la répartition, si possible, équilibrée des populations sur l'ensemble du territoire et surtout leur autonomie.
Totale, quoi. Enfin, alimentaire, notamment.
Si possible, alimentaire. Alors, bien sûr, dans le contexte chinois des années 70, 68-70...
Disons que ça a mal tourné.
Ça a mal tourné. Mais ça reposait sur une stratégie qui est sur le plan géopolitique, très responsable, de l'équilibre des territoires et de l'autonomie de chaque parcelle de ces territoires. Et ça, c'est un élément dont on va avoir besoin, justement, dans l'avenir.
Comment est-ce qu'on pourrait organiser ça en Bretagne, une autonomie des territoires agricoles, alimentaires ?
Je vais vous dire qu'on n'avait pas besoin des communes populaires, on avait ce qu'il fallait en Bretagne. Les réseaux de villes petites et moyennes, excessivement dense, hein, plus de 35, qui datait de l'époque gallo-romaine et peut-être même avant, répondait tout à fait à cela. L'autre jour, j'ai entendu, dans une préparation de liste pour les prochaines régionales, quelqu'un, un écologiste, dire « Ben voilà le mode de vie rêvé, ce que pourrait être le mode de vie rêvé, c'est-à-dire ne pas avoir trop de déplacements pour aller au travail, vivre dans un cadre qui soit socialement très proche de son voisin, où on a à peu près tous les services, où la végétation et la nature est proche, et il ne se rendait pas compte, cette personne ne se rendait pas compte, elle qui prétendait ou qui prétend un jour se faire élire comme représentant au conseil régional, qui ne faisait que décrire le concept de pays. C'est assez affligeant, d'ailleurs.
De pays au sens voisin ou de pays au sens plus ancien ?
Eh bien, de sens plus ancien.
Oui, des pays traditionnels bretons.
Du pays traditionnel breton. Le pays voisin ou le pays pasquois précédemment n'ont fait que reprendre, d'ailleurs, ce principe, en le structurant peut-être davantage. Mais nos sociétés antérieurement, et ce sur au moins 2 millénaires, peut-être plus, avait cette réponse de la dispersion de la population. Et dispersion, ça ne veut pas dire anarchie.
Ni mitage.
Ni mitage, hein, c'est très différent de la diffusion. Donc la dispersion, c'est une forme organisée d'occupation d'un espace. C'est d'autre part une forme très responsable d'organisation de cet espace. Et vous parliez tout à l'heure des déplacements de commutants là, entre habitat et travail, qui prennent des proportions catastrophiques dans nos sociétés. Hein. Enfin, au moins 50 km en moyenne par jour et par travailleur. Ces organisations plus dispersées n'ont pas besoin de cela. On va au travail à pied ou à bicyclette. Hein, ou même, à la rigueur, on prend la voiture sur 10 km, mais pas plus. Et donc, c'est une qualité de vie, C'est une préservation des équilibres environnementaux. C'est aussi un lien très fort à ce besoin de nature qu'ont les gens. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, quand est-ce que j'ai vu une ville totalement vide ? Oui, hier. Hier, les restaurants à Rennes étaient vides.
Bon, la période n'est pas idéale pour les restaurants.
Oui, mais ils étaient vides, non pas parce qu'il y avait le Covid, ils étaient vides parce que la population habituelle est en vacances et elle est ailleurs. Elle n'est plus dans le centre de la ville. C'est terrible. Donc on perçoit chez les populations de ces métropoles ou de ces grandes agglomérations un besoin de fuir la ville.
C'est vrai. Par exemple, quand on voit que des initiatives comme des écoles dans la forêt, ça fonctionne à fond parce que les gens ont besoin de se reconnecter à la nature.
Et ça montre bien que les gens ont ce besoin de lien à la nature.
Mais est-ce que pour autant, ils seraient d'accord ? Parce que bon, si l'agriculture a perdu autant de bras, c'est parce qu'il y a un problème de fond sur le modèle agricole. J'en sais rien, mais en tout cas, ça n'a pas l'air de séduire les foules.
On n'est pas d'ailleurs obligé d'être nécessairement agriculteur parce qu'on peut faire d'autres choses dans les campagnes. Mais ça pose aussi la question de cette... l'élimination terrible des agriculteurs. On peut très bien vivre encore aujourd'hui avec très peu de terre, hein, 4-5 hectares. Ça permet de mieux vivre quelquefois que d'être un cadre moyen en ville. On a, d'autre part, ça pose peut-être la question des rémunérations aussi des produits de la vente agricole, enfin des produits, hein. Et peut-être nos équilibres aujourd'hui dans nos sociétés sont à reconsidérer entre la valeur d'un bien de production primaire et d'un bien transformé par l'industrie, qui d'ailleurs n'est plus produit chez nous.
Oui, donc il va falloir que les gens acceptent de payer ce qu'ils mangent.
Et tout est à reprendre. Oui. La qualité de vie. Moi, j'en ai toujours voulu à mes parents d'avoir quitté leur village pour aller en ville.
Mais ils avaient leurs bonnes raisons. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit ?
Oh, bah, ils avaient des raisons de carrière. Un truc à la con. Et moi, je n'ai revécu véritablement que lorsque je suis allé coopérer en Afrique et en pleine brousse, j'ai retrouvé mes conditions de vie de l'enfance.
Et ça les a pas rendus heureux, c'est ça que vous voulez dire ?
Et non, ils sont pas heureux. Ils n'ont pas été heureux nécessairement. Oui, ils ont eu l'impression de progresser socialement, mais c'était une illusion. Et par contre, ils avaient perdu le lien. Je pense notamment à mon père qui était un garçon qui avait travaillé dans les fermes dès 8 ans. Et qui avait toujours rêvé un jour d'avoir une ferme, il a perdu ce lien. Hein, terrible. Il se serait fait plaisir en restant à la campagne, en étant dans son milieu. Oui.
Donc on a encore tout ce qu'il faut si on veut, mais on est peut-être sur le point de le perdre.
Donc on est face à des choix de vie, des choix de société très fondamentaux. Et on voit bien que toute cette société consumériste de concentration, etc., n'a comme seul intérêt que l'intérêt des grands groupes internationaux qui gèrent l'industrie et la finance, c'est tout.
Et un autre type de, ça me permet de rebondir sur un autre type de concentration, alors plus saisonnier, dont on n'a pas encore parlé, mais qui est intéressant chez nous, n'est-ce pas ? C'est le tourisme, la façon dont des populations vont venir soudainement sur un territoire, la côte en l'occurrence, et peut-être même, alors après le confinement, ça va être plus pérenne l'installation. On ne sait pas, on verra s'il y a des gens qui viennent s'installer sur la côte parce qu'ils n'en peuvent plus de vivre dans les villes. Qu'est-ce que vous en pensez de ce phénomène-là ?
Vous rebondissez bien sur le propos précédent, J'évoquais ces populations qui ne supportent plus de vivre en ville. Il faut savoir que quand même 80% des cadres à Paris souhaitent ne plus vivre à Paris. 60% de la population résidant en Île-de-France, de même. Donc il y a un malaise quelque part. Alors le problème, c'est que qu'est-ce qu'on leur offre comme alternative ? Effectivement, c'est ce mois de vacances et ces week-ends. Et là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils viennent chez nous. Et c'est terrible parce que cette partition par fonction des territoires s'opère à toutes les échelles. Et la Bretagne, très carrément, dans les schémas de développement de l'espace européen qui ont existé jusqu'aux années 1999, puisque le dernier schéma date de 1999, donnait comme fonction, visiblement et très clairement, à la Bretagne, cette fonction touristique.
Ah oui.
Quand on prend les schémas d'aménagement de l'espace atlantique, parce que j'ai travaillé à l'Institut Atlantique d'Aménagement du Territoire, les dernières cartes qui sont sorties en 2001, sont atterrantes.
Est-ce qu'on prévoyait un tourisme de masse ou quel type de tourisme on prévoyait?
Oui.
On voulait bétonner la côte comme sur la Côte d'Azur.
Mais ça avait été envisagé dès les années 60. Il y avait un plan équivalent au plan Languedoc sur la Bretagne Sud, entre la Baule et le Croisty.
Et qu'est-ce qui a fait qu'on n'a pas eu de grandes mottes ou de cap d'Agde?
Eh bien, parce qu'on a pris conscience des dégâts que ça faisait. Et puis, il ne faut pas oublier que les années 70 ont été des années de contestation écologique aussi.
Oui,
hein, on l'a oublié. Le Carmet, les marais de Guérande. S'il y a des saliculteurs aujourd'hui sur Guérande, c'est dans ce combat-là.
Oui, les Bretons étaient quand même vigilants quant à la qualité
et
de leur côte.
Et est arrivée par chance la loi Littoral, qui est peut-être arrivée tard, mais qui, d'une certaine manière, en Bretagne, a préservé certaines franges du littoral. L'armée aussi, d'ailleurs.
Oui, il faut bien le dire.
Oui.
Et là, actuellement, j'ai l'impression qu'on reprend conscience de cette pression touristique.
Et là, actuellement, eh bien, la Bretagne retrouve cette fonction. Alors, c'est plus organisé de manière aussi planifiée que ça ne l'était dans les plans des années 70, mais de fait, ça revient au même. Et aujourd'hui, bien, quand on est à 2h30 de route ou 3h de route de train...
Grâce au TGV
de ces rivages, bien, que font les populations? Elles s'y précipitent. Alors, dans les années 80, c'était le littoral... 70-80, c'était le littoral de la Manche. Aujourd'hui, c'est nos littoraux de Vendée, de Bretagne Sud et maintenant de Bretagne Nord. Mais chose qui est importante, c'est que ça n'est plus tout à fait du tourisme. C'est aujourd'hui quelque chose de quasiment systématique. À chaque pont, à chaque grande vacance, bien sûr, mais même quelquefois à chaque week-end. Moi qui réside sur le bord du golfe du Morbihan, j'ai vu les choses évoluer. Et depuis 3-4 ans, je dis que ça n'est plus du tourisme, c'est un défouloir. Et ce mot-là fait peur.
C'est de l'évasion, en fait.
C'est de l'évasion. Ça. C'est un besoin de se lâcher.
Décompression.
Oui. Mmh. Et ça se traduit par quoi? Ça se traduit par, bien sûr, encore des pratiques touristiques traditionnelles, mais aussi, surtout, une vie nocturne, des bars, des débordements, alcool, drogue, sur les quais des ports, etc. Et pour la première fois l'année dernière,
C'est pas de la convivialité, pour le coup.
C'est plus du tout ça.
À vous entendre, ce n'est pas de la convivialité.
C'est plus du tout ça. C'est même plus une fonction touristique. C'est un grand parc d'attractions qu'on offre à ces populations qui ont besoin de se défouler. Et ça, c'est humain. Et là, pour la première fois, j'ai entendu l'année dernière des commerçants qui vivent du tourisme se plaindre. Et cet été, ça a été beaucoup plus important. Même dans une des stations touristiques de la presqu'île de Ruys, le maire, tout récemment, a dit qu'il fallait réguler les flux, les limiter. C'était plus tenable.
C'est ça. Ouais. Même en presqu'île de Crozon, ils ont commencé à en parler aussi.
J'ai entendu des commerçants se plaindre de ne plus pouvoir aller à leur travail alors qu'eux-mêmes vivent du tourisme.
Et on ne parle même pas des résidences secondaires ces problématiques-là, on peut en parler.
Ceux qui ont leur résidence secondaire, une fois arrivés dedans, ils sont dans une bulle. Donc, ce n'est pas les plus gênés.
C'est vrai.
Et on les voit. Alors, le tourisme illien, c'est l'exemple type de ces bulles. Bréa, l'île aux Moines, bientôt Groix, et pourquoi pas Saint, Ouatt, Édic, etc.
Et Ouessant, on peut monter
encore. Et Ouessant, bien sûr, qui passera à la Moulinette un jour ou l'autre. Mais la vraie question, elle n'est plus là. C'est-à-dire que ce n'est plus du tourisme. Le tourisme supposerait d'autres fonctions, des choses... Et pour moi, de toute façon, le tourisme, c'est... Dans cet ouvrage « Défi pour la Bretagne », j'ai trouvé quelque chose de magnifique en le rédigeant. Je suis retombé sur un texte d'Élisée Reclus, qui date de 1862 pour la revue des Deux Mondes.
Qui existe toujours.
Et dans ce texte, vous le verrez, il décrit, et enfin il anticipe ce que sera le tourisme au vu de ce qu'émerge de la fonction touristique qu'est l'alpinisme. Et les premières stations de bord de côte qui apparaissent au milieu du 19e siècle. Et il laisse entendre la chose suivante, lui qui était un anarchiste, il dit « c'est le stade suprême du capitaliste. Après avoir tout consommé, on consomme la dernière chose, le paysage. » C'est-à-dire un bien immatériel et un bien commun.
Et donc on consomme notre littoral.
Et aujourd'hui on est en train de consommer... ce bien commun qui est le littoral, qui est l'estran.
Et dont vous êtes spécialiste.
Oui, consomme toutes les richesses potentielles de ce milieu au nom d'un veau d'or qui est le tourisme. Mais on met à mal des activités de production primaire.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Parce que vous, en fait, vous niez pas que l'océan soit une richesse et on pourrait s'appuyer davantage dessus, c'est
ça ? Au contraire, c'est notre avenir, l'océan. Et la mer Bordière encore plus, puisque c'est elle qui recèle toutes les richesses halieutiques. J'ai piqué ma colère à travers un article de presse au mois de janvier, l'an dernier, parce que tout le secteur ostréicole de Bretagne Sud et même Bretagne Nord a été bloqué par des contaminations liées au
tourisme, justement.
Aux coliformes fécaux, qui étaient liées à un apport touristique incontrôlé et à des pratiques de tourisme très problématiques aujourd'hui, puisque je savais la chose, mais je ne mesurais pas à quel point elle était importante, et c'est le président régional de la section conchylicole qui me l'a dit. Aujourd'hui, on loue des bateaux non pas pour naviguer, mais pour résider. Dans le port de la Trinité, il y avait 1500 bateaux en location à Noël. Et les eaux...
Mais qui n'ont pas eu d'huîtres à Noël, du coup, alors.
Non.
Voilà, tant pis. Hein.
Mais oui, mais c'est effarant.
C'est ça.
C'est effarant. Et on met en péril un secteur économique qui fait quand même vivre directement et indirectement 12 000 personnes en Bretagne. Je ne sais plus son chiffre d'affaires, mais c'est en millions d'euros, uniquement parce qu'on a mis l'accent sur cette fonction-là.
Alors que la mer, ça pourrait être aussi... Alors, les ressources halieutiques...
Et notre président de conseil général, je me permets de le tacler parce que c'est un scandale, dit le tourisme d'abord. Or, le tourisme, c'est une activité conjoncturelle.
Et qu'est-ce qu'il y aurait donc comme activité littorale aussi qu'on pourrait développer davantage, selon vous, qu'on pourrait privilégier ?
Aujourd'hui, toutes les fonctions halieutiques primaires. La pêche.
La ressource n'est pas en très bon état, ceci.
Oui, parce qu'on l'a polluée. On a pollué la mer.
On a surpêché parfois aussi.
Oui, il ne faut pas exagérer. Vous savez, bien sûr, il y a eu des excès, comme dans toute activité primaire. Aujourd'hui, les pêcheurs sont autrement plus responsables que beaucoup des écolos urbains qui leur font la morale. Moi, je participe au groupe Pêche et Développement, vous savez, avec les gens du Guilvinec ou des grands ports de pêche bretons. C'est des gens qui ont une vision très, très responsable de ce qu'est la ressource aujourd'hui.
Ils veulent pas scier la branche sur laquelle ils sont assis.
Ils ont compris qu'il faut la préserver pour continuer à avoir une activité pérenne. Alors, il y a toujours des brebis galeuses, bien sûr, dans toute profession, mais globalement, ils ont compris ça. Ils sont même à des stades de reconstitution de la ressource aujourd'hui, sur la langouste notamment. Ils l'ont fait sur la coquille Saint-Jacques avant, sur la langoustine.
Donc la pêche, la pêche aux algues,
toute l'algoculture, bien sûr. Toute la biochimie liée à ces espèces marines.
Les biotechnologies.
Les biotechnologies.
Ouais.
Il y a l'énergie. Et l'énergie, malheureusement, on est en train de partir sur une très mauvaise route aussi. Et l'exemple de la baie de Saint-Brieuc est très révélateur. On risque de mettre en péril des gisements de coquilles Saint-Jacques qui sont un modèle de gestion de ressources pour un champ éolien qui peut-être est nécessaire. Mais jusqu'où ? Et si on met en balance les deux données, qu'est-ce qu'il faut choisir ?
J'imagine que la question est délicate.
Moi, j'opterais plus facilement pour le maintien d'une richesse pérenne, qui est la richesse halieutique, plutôt que pour une activité qui est peu productive en énergie, qui est l'éolien offshore, puisque une éolienne, ça n'a de production que de 27% de sa capacité, et qui va avoir des impacts en termes d'implantation très lourds. De la même manière, les champs éoliens qui se préparent au large de Groix sur des éoliennes flottantes vont à terme sûrement remettre en cause les champs, les secteurs de pêche à langoustine. Alors on peut peut-être, s'il y a une véritable concertation entre acteurs, on peut peut-être coordonner les deux fonctions. Mais il ne faut pas y aller avec des gros sabots comme c'est en train de se faire en baie de Saint-Brieuc.
Peut-être que la baie de Saint-Brieuc est un cas plus problématique que d'autres cas. Mais la baie de Saint-Brieuc reste un cas test, si je ne m'abuse.
Oui,
c'est
oui.
Un projet industriel.
Ah ben si, parce que ça va être 80 éoliennes.
Ah ouais, d'accord.
Et des grosses, des monumentales, et menées par un groupe privé d'origine espagnole. Et là, qui n'a pas du tout de soucis environnementaux, lui, il s'en fout. Ce qu'il cherche, c'est la rentabilité de son investissement.
Et vous, l'énergie marine, ça serait, quelle serait la piste intéressante pour vous ?
Il y en a plein qui sont sous-exploités. Alors, il y a bien sûr l'énergie hydrolienne. Bon, elle est limitée, oui. Mais il y a toute l'énergie houlomotrice.
Oui, on en est un peu au balbutiement.
Eh bien, on est au balbutiement, mais on est très en retard. Allez en Écosse et vous verrez. Hein. En Écosse, ils sont déjà dans des stades opérationnels. Il y a plein de solutions. Mais le problème, c'est qu'en France, on a toujours cette culture de l'entreprise d'État et de l'idée que plus le projet est grand, meilleur il est. Or, là encore, on retrouve le même problème que pour la ville. Il ne s'agit pas de concentrer, il s'agit de fractionner et d'utiliser au plus près.
Donc là, c'est une nouvelle décentralisation qu'il nous faudrait quelque part.
Oui, et nouvelle surtout façon de penser l'aménagement. Mais on n'a plus d'aménagement et on pense selon des schémas qui sont éculés.
Et oui, et donc en fait, ça serait quoi la nouvelle façon de penser, enfin de procéder concrètement pour aménager ?
Pour aménager, d'abord...
Refaire des célibes, en fait.
Il faudrait qu'au moins notre pouvoir régional ait d'abord une volonté, ce qu'il n'a pas, ait ensuite une capacité à concevoir un aménagement, c'est-à-dire à donner des orientations. Pour cela, ça suppose un espace d'études, et je le demande dans mon ouvrage, qui soit indépendant des enjeux portés par les forces antagonistes. Et ça supposerait un minimum de dirigisme. Et ça, c'est pas du tout dans l'air du temps de nos sociétés qui se veulent libres et libérales à tout craint. Or, tous les projets de notre société française, qu'ils soient passés, et même de l'ancien régime jusqu'à nos jours, ont été des projets dirigistes, avec des excès eux aussi, mais avec aussi des réussites.
Donc il faudrait une politique régionale un peu visionnaire d'aménagement.
Oui. Et pour ça, pour mener une telle politique, il faut des moyens financiers. Et là, on touche le doigt sur le problème de l'autonomie, du transfert des compétences en termes d'aménagement, en termes financiers, en termes éducatifs, puisqu'il faut changer les représentations. Vous voyez ?
Oui,
et là,
ça va loin.
On touche à quelque chose de très grand, très fort. Et peut-être que justement, mais ça n'est pas qu'un problème breton et brito-breton, peut-être que la survie de la France, en tant que puissance, passerait par cette confiance accordée aux régions.
Mais j'ai l'impression qu'elles ont pris en puissance, moi, les régions.
Non, pas du tout.
Ah ouais.
Pas du tout, au contraire.
C'est une fausse impression. Alors.
On est dans un repli centraliste, comme il n'y en a jamais eu depuis longtemps, et qui fait fausse route. Et dont on paye peut-être les excès aussi aujourd'hui à travers des phénomènes tels que les événements récents viennent de montrer. Et il faut aujourd'hui repartir sur de totales autres bases, changer les représentations qui ont cours, construire une autre organisation institutionnelle que celle qui aujourd'hui, en fait, conduit à la déliquescence de l'État.
Refaire une constitution, alors, c'est ça ?
Oui, oui. J'ose pas dire, l'autre jour, un candidat a évoqué faire une révolution. J'oserais pas utiliser le terme, bien que je le pense fondamentalement. Mais je dis faire une mutation brutale et profonde de tout ce qui gouverne notre société. Et c'est en cela que je pose la question sous le terme de contrat social. Et le défi que nous allons avoir à relever, celui de la mutation climatique, nous renvoie dans la figure toutes les contradictions du système précédent dans lequel nous vivons aujourd'hui.
Et donc on va être obligé d'y venir, finalement.
Alors si on n'y va pas...
Ça va se faire dans la douleur, quoi.
Si on n'y va pas nous-mêmes, ça, exactement, ça se fera brutalement par crise violente. Là, on vit des crises sociales et politiques ou idéologiques, mais on va avoir des crises environnementales monumentales. C'est ce que j'essaye de démontrer dans cet ouvrage. Parce que je pense que la première qui va nous arriver dans la figure, ça va être celle-là. Et sur des échéances qui sont beaucoup plus immédiates que ce qu'on veut bien imaginer. J'ai vu, moi, je commence à être âgé, j'ai vu au cours de ma vie des milieux changer, où la mer était à certains endroits. J'ai vu ces milieux devenir des friches, puis devenir des quartiers urbains. Et je sais que dans 20 ou 30 ans, la mer aura repris le contrôle de ces espaces. Donc en une vie, j'ai vu des mutations du milieu. Mais c'est rien à côté de ce qui s'annonce.
C'est le géographe qui nous le dit.
Oui, non, mais et ça, les gens ne le voient pas parce qu'on est dans cette logique du court terme. Tout est fait sur le court terme. Et la mutation a opéré. Elle doit nous préparer à cette transformation de nos sociétés sur des horizons de 2 à 3 siècles. Et c'est maintenant qu'il faut les engager.
Bon, ben on va souhaiter que ça se fasse. Merci.
Non, on peut souhaiter, mais on peut rêver aussi, malheureusement.
Le géographe Yves Le Bailly, dont le dernier ouvrage « Défi pour la Bretagne » est paru aux éditions Skolvreys. N'hésitez pas à réécouter cet entretien première et deuxième partie sur le site internet de Radio Évasion.